réplique le mystère Houellebecq avec Agathe Novak Le Chevalier et Frédéric Becbédé. Pour certains auteurs, le moi quotidien, minable, est un moyen privilégié d'accéder à l'universel. Je dois maintenant me rendre à l'évidence, je n'en fais pas partie, écrit Michel Houellebecq dans sa conversation avec Bernard-Henri Lévy, ennemi public. Et il ajoute, je n'aurai jamais l'indécence tranquille de Montaigne, ni celle, moins tranquille, de Gide, je n'écrirai jamais les confessions ou les mémoires d'outre-tombe, pas davantage un pédigré. Ce n'est ni malgré ni à cause de l'admiration que je porte à ces livres et à leurs auteurs. C'est simplement que ma pente naturelle ne m'entraîne pas dans cette voie. Plus que de creuser en moi-même à la recherche d'une hypothétique vérité, j'aime sentir naître en moi, se développer, les personnages. J'aime sentir entre eux, et de moi à eux, naître admiration, haine, jalousie, fascination, désir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de cette autre vie. Le dernier en date de ces personnages, le héros de Sérotonine, s'appelle Florent-Claude Labrouste. Et nous apprenons d'entrée de jeu qu'il déteste son prénom. Florent est trop doux, trop proche du féminin Florence, en un sens presque androgyne. Quant à Claude, n'en parlons pas. Il me fait instantanément penser aux Claudettes et l'image d'épouvante d'une vidéo vintage de Claude François repassée en boucle dans une soirée de vieux PD me revient aussitôt dès que j'entends prononcer le prénom de Claude. Ce ton, on le reconnaît entre tous. Ce qui fait, comme l'écrit dans un article lumineux Frédéric Becbédé, que lire le nouveau Michel Houellebecq est comme reprendre une conversation avec un obsédé au cœur brisé. Houellebecq n'est pas Rousseau ni Montaigne, il ne scrute pas son moi, mais le désespoir et la drôlerie dont il crédite ses personnages ont quelque chose d'inimitable et d'éminemment singulier. Ce quelque chose, c'est quoi ? Nous avons besoin de médiateurs intelligents, nous autres lecteurs un peu paumés, pour passer d'une impression confuse à une formulation précise. J'ai convié à cet effet Frédéric Becbédé et Agathe Novak Le Chevalier, qui vient de publier un essai remarquable intitulé « Houellebecq, l'art de la consolation ». Et je les prierai pour commencer d'imaginer la scène suivante. Vous siégez à l'Académie française. Vous en êtes à la lettre H du dictionnaire. Et pour bien montrer que vous n'êtes pas les vieux croutons dont aiment à se gausser les professionnels du rire, vous avez décidé d'accueillir l'adjectif houellebecquien. Quelle définition lui donnez-vous, Agathe Novak Le Chevalier ?
Alors, j'aurais bien du mal à donner une définition concise de dictionnaire, mais déjà, ce qui me semble en effet très intéressant, c'est que cet adjectif signifie quelque chose. C'est-à-dire que dans un de ses articles d'intervention, Houellebecq a dit que son idéal serait, à l'instar de Baudelaire, de créer un cliché neuf. Manifestement, il y est arrivé. Alors, qu'est-ce que ça signifie, houellebecquien ? Je pense que quand on y pense, la manière dont on l'emploie dans le langage courant sert à désigner une situation pathétiquement comique où l'homme est confronté à un monde médiocre, impersonnel et dérisoire. Mais je crois que cette dérision n'est sensible que parce que derrière, il y a toujours une aspiration à l'infini. Donc, pour moi, houellebecquien, ce serait le fait de montrer la médiocrité du monde sur le fond d'une aspiration à l'infini.
Belle définition. Je pense que... Je m'avance peut-être un peu, mais je crois que l'Académie va l'adapter. Frédéric Becbédé.
On pourrait dire que c'est aussi la définition d'un homme, l'homme contemporain, seul, misérable, privé de métaphysique, de transcendance... Et vous avez tout à fait raison, romantique. C'est souvent, chez Houellebecq, il y a souvent un chagrin d'amour, une dépression, Donc, ça pourrait être synonyme. Je ne sais pas si l'Académie a adopté l'adjectif déprimiste. Je ne sais pas. Mais enfin, ça pourrait être synonyme de cela. C'est un mélange de quête de sens et de perte. Perte de repères. Et surtout solitude. Moi, pour moi, ce qui me frappe et qui est commun à tous les romans de Michel Houellebecq, c'est que ce sont des hommes seuls et qui en souffrent, qui souffrent de cette solitude, qui sont frustrés, qui sont impuissants. Dans le dernier, c'est évident. C'est pas seulement l'impuissance sexuelle, d'ailleurs, c'est l'impuissance aussi politique, économique. Donc, c'est, je sais pas si c'est une vraie définition de dictionnaire, mais l'adjectif pourrait entrer dans le vôtre. Sûrement,
oui. Oui, et vous dites, vous avez commencé en disant l'homme occidental. Et il est vrai, je trouve que Houellebecq a un art tout à fait extraordinaire de marier le particulier et le général. Parce que ces personnages, ce sont de vrais personnages. Et un vrai personnage, c'est quelqu'un qui n'est pas interchangeable, bien sûr. Et il y en a un autre, par exemple, qui nous poursuit, nous en parlerons dans la suite de Sérotonine, c'est Aymeric Darcourt, le seul ami du narrateur. Mais je dis cela parce que c'est à la fois un individu et c'est en effet l'homme occidental. Et on va du plus particulier au plus général. Il y a cette phrase extraordinaire dans Sérotonine. Le troisième millénaire venait de commencer et c'était peut-être pour l'Occident, antérieurement qualifié de judéo-chrétien, le millénaire de trop. Dans le même sens qu'on parle en boxe d'un combat de trop. Et puis, il y a aussi cette phrase dans le livre, qualifiant le personnage, disant qu'il était devenu un homme occidental. J'en étais là, homme occidental dans le milieu de son âge, à l'abri du besoin pour quelques années, sans proches ni amis, dénué de projets personnels comme d'intérêts véritables, profondément déçu par sa vie professionnelle antérieure, ayant sur le plan sentimental des expériences variées, mais qui avait eu pour point commun de s'interrompre, dénué au fond de raison de vivre comme de raison de mourir. C'est donc à la fois quelqu'un et tout le monde.
Oui. Il y a toujours cet effet chez Houellebecq qui est dans tous les romans qui est extrêmement marquant, qui a un effet de changement d'échelle, en effet.
Voilà.
Il y a quelque chose de vertigineux avec des passages extrêmement brusques du micro au macro. Et je crois que c'est ça qui fait aussi l'intérêt profond de ces romans, c'est-à-dire que on ne s'identifie jamais complètement individuellement à un personnage de Houellebecq, mais on s'identifie au discours général qu'il tient sur le monde, et aussi, je crois, à cette manière dont les personnages sont toujours à distance du monde, en décalage avec lui.
Il n'adhère pas. Hein,
voilà.
D'ailleurs, le mot est utilisé aussi dans Sérotonine.
Le défaut d'adhérence, c'est ça. Houellebecq dit lui-même qu'il a toujours une sensation d'aquaplaning dans la vie. Bah, ces personnages exemplifient ça toujours.
On pourrait quand même resituer dans l'histoire littéraire, parce que ça vient pas de nulle part. Bien sûr qu'il y a des anti-héros chez Camus, chez Sartre, chez Céline, qui rappellent un peu les anti-héros de Michel Houellebecq, cette espèce de perte de valeur, d'absence de sens, de gens paumés qui errent à la surface d'une planète en cherchant le bonheur impossible, etc. Enfin, il est Michel Houellebecq, pour moi, c'est un écrivain totalement de son temps et en même temps qui a digéré l'histoire de la littérature. Il est à la fois balzacien et eux aussi très russe dans ce livre-là, je trouve. Le personnage lit les âmes mortes et on reconnaît dans la Brouste un peu de Tchitchikov, ce héros de la satire de Gogol, dans une Russie d'avant la Révolution. Et là, il est question d'une situation pré-révolutionnaire dans ce livre. C'est des personnages qui cherchent à être heureux, n'y arrivant jamais, qui finissent peut-être par comme on dit aujourd'hui, péter les plombs.
Oui, ils finissent tous un peu par péter les plombs, notamment le dernier, mais c'est-à-dire, il y a une vision du monde, une philosophie, un désespoir très précis. Et c'est pas un désespoir psychologique, simplement,
non.
Dans lequel nous pourrions reconnaître une part de notre psychologie. C'est ce que Heidegger appellerait une Stimmung, une disposition d'âme, une manière d'appréhender le monde dans sa vérité. Il est désespéré devant un monde désespérant. Vous avez dit l'absence de transcendance, Frédéric Becbédé, oui, il n'y a plus de Dieu. Et qu'est-ce que vivre quand
il n'y a plus de structure, il n'y a plus ni famille, voilà, ni pays, véritablement, et encore moins de Dieu. Et donc, vous avez des gens qui savent plus, à quoi ils servent, à quoi sert la vie.
Oui, il y a et vous citez une phrase de Houellebecq dans votre livre avec Agathe Novak Le Chevalier. Le couple et la famille représentaient le dernier îlot de communisme primitif au sein de la société libérale. La libération sexuelle a eu pour effet de destruction de ces communautés intermédiaires, la dernière à séparer les individus du marché. Ce processus de destruction se poursuit de nos jours. L'extension du domaine de la lutte, l'extension du domaine de marché, de la compétition inévitable. Ce qui fait de Houellebecq un auteur très paradoxal, parce que, avec son obscénité, quelquefois vraiment stupéfiante et choquante. Alors, évidemment, il intimide, on n'ose pas être choqué pour pas être bégueule, mais on est quand même un peu choqué par les scènes de zoophilie, par exemple, racontées au début de Sérotonine. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'antimoderne ou de réactionnaire, comme dirait Daniel Lindenberg dans
conservateur. Michel préfère le terme de
oui,
conservateur.
Mais Lindenberg dit réactionnaire. Oui. Et dans un livre que Pierre Rosanvallon himself a qualifié de prémonitoire et de décisif. Je pense qu'il est plutôt conservateur en effet, conservateur de quelque chose qui disparaît. Par exemple, il y a Camille, son amour, nous reviendrons, la femme qu'il a aimée, elle est en stage à Caen, son stage doit se terminer, et il imagine qu'il aurait pu lui demander d'abandonner ses études et de devenir foyer. Mais il dit, ah non, je suis moderne, ça fait pas du tout partie de mon logiciel de moderne. Mais comme si il avait la nostalgie de ce monde-là, Houellebecq.
Il y a toujours chez lui... ce sentiment d'une accélération absurde du monde et cette volonté, en effet, de rétrograder d'une certaine manière, de ralentir cette accélération qui nous mène toujours chez lui au désastre. Mais sur l'absence de sens, il y a une scène extraordinaire dans Sérotonine où le personnage de Florent-Claude Labrouste dit qu'il va se livrer à une opération de télémancie et que alors que les chevaliers du Moyen-Âge ouvraient la Bible au hasard et essayaient d'interpréter les paroles de la Bible pour trouver une solution à leur situation actuelle, là, le personnage allume une chaîne de télé et essaie d'en tirer le même profit. Il tombe sur une émission qui fait l'éloge de Laurent Baffy comme étant une belle personne.
Une belle personne. Voilà, c'est un moment prodigieux.
Et c'est très Houellebecquien, en effet.
Oui. Je crois que ça c'est important parce qu'il faut parler de la drôlerie. Parce que là, de la manière dont nous avons présenté Houellebecq, ça paraît sinistre. Or, ce qui fait la différence justement entre Houellebecq et par exemple Camus ou Sartre, c'est que c'est hilarant. Et je pense que la cruauté, la violence de ce qui est décrit ne serait pas possible, ne serait pas agréable, ne serait pas lisible sans cet humour permanent et ce sens de la satire, ce regard, ce regard, choquant, provocateur sur la misère humaine.
Alors, et en même temps, oui, tous les romans opèrent une transition, c'est-à-dire qu'on commence sur quelque chose de très drôle, très très caustique, très incisif, et plus ça avance, et plus on délaisse le rire, et plus on s'engage dans une voie pathétique. Je crois que c'est toujours très important chez Houellebecq de commencer justement sur une critique extrêmement acerbe, et de terminer sur une sorte de
lumière,
de pathétique extrême.
C'est pas un humour, on n'est pas seulement acerbe chez Houellebecq. Et vous citez une scène absolument prodigieuse de Particules élémentaires, Agathe Novak Le Chevalier, c'est dans le camping, le lieu du changement. Hein. Et alors dans ce camping, l'animatrice prie à un moment donné les participants de s'ouvrir sur l'espace illimité de la création. Donc ils rédigent tous des poèmes. Ils composent des poèmes et puis ils les lisent les uns après les autres. Et il y a Bruno a composé son poème. Il fait deux vers. les taxis, c'est bien des PD, ils s'arrêtent pas, on peut crever. Réaction imperturbable, c'est ce que tu ressens, fit la yogini. C'est ce que tu ressens parce que tu n'as pas dépassé les mauvaises énergies.
C'est extraordinaire.
C'est à pleurer de rire. Alors en même temps, bien sûr, on se demande d'ailleurs si cet humour-là en a pour longtemps. Je veux dire, c'est un humour sous surveillance. Mmh. Et on a peur, quand on lit Houellebecq, d'une descente du défenseur des droits, d'une descente du Haut Comité à l'égalité des hommes et des femmes. Pour le moment, il bénéficie d'une certaine immunité, mais il y a d'ores et déjà en Amérique des sensitivity readers les maisons d'édition. Oui. Je pense que la France est menacée du même phénomène. Mais tout ça pour dire que Et vous le notez, Agathe Novak Le Chevalier, vous surprenez dans les transports en commun des gens qui lisent de Houellebecq, des romans de Beley, et qui peuvent pas se retenir de rire.
Mais de fait, c'est menacé quand on voit, alors évidemment c'est de la récupération politique de bas étage, mais quand on voit la polémique sur Niort, parce que le personnage dit que Niort est la ville la plus laide du monde, et quand on voit la manière dont ça a été exploité par les médias, il suffit de lire Extension du domaine de la lutte, et je suis désolée, mais il dit bien pire de la ville de Rouen, mais à l'époque... En 94, ça n'avait fait aucune... Enfin, personne n'avait évidemment rien dit de ça. Aujourd'hui, au contraire, la polémique enfle sur la ville de Niort.
Il y a aussi un peu d'inculture, d'analphabétisme, littéraire, parce que on sait que le narrateur ne dit pas forcément ce que pense l'auteur.
Oui.
Et tout le monde accuse Houellebecq de ne pas aimer Niort. Mais je pense qu'il s'en fiche complètement de la ville de Niort. C'est un personnage qui parle dans un roman de fiction.
Alors, le narrateur n'est pas l'auteur, dites-vous. Et c'est vrai, c'est un peu cette distinction.
Vous avez commencé par là,
oui.
en disant, Houellebecq n'écrit pas sur son moi, ça n'est pas un auteur, une confession.
La distinction est importante, elle est même capitale. D'un autre côté, les premiers mots de soumission, je les lis, l'incipit, « Pendant toutes les années de ma triste jeunesse, Huysmans demeura pour moi en permanence un ami fidèle. » Suivent des considérations sur la lecture. La littérature, justement, c'est on entre en contact avec un autre esprit humain, avec l'intégralité de cet esprit. Un auteur, c'est avant tout un être humain présent dans ses livres. Il dit, et d'ailleurs, ces considérations se rapprochent énormément de ce qu'écrit Proust dans son livre sur la lecture. C'est la seule amitié véritable, c'est celle qu'on noue avec un écrivain. Et il dit ceci à propos de Huysmans, que vous citez, je crois d'ailleurs, Agathe Novak Le Chevalier, c'est que Huysmans lui a fait beaucoup de bien. Le narrateur, en l'occurrence, parce qu'il devait manger au restaurant universitaire Bullier, où c'était absolument dégueulasse, et il dit qu'il songeait à ce moment-là aux épithètes de Huysmans, le désolant fromage, la redoutable sole, et il imaginait le parti que Huysmans aurait pu tirer des casiers métalliques du restaurant Bullier, et il a cette phrase, je me sentais un peu moins malheureux, un peu moins seul au restaurant universitaire Bullier. Et on peut dire que lire Houellebecq, c'est ça, c'est la première consolation, pour reprendre le titre de votre livre, c'est de se sentir un peu moins malheureux, un peu moins seul en le lisant.
C'est ça. La littérature est, pour Houellebecq, je crois profondément, ce qui va contre ce qu'il appelle la déliaison, c'est-à-dire cette disparition progressive des relations humaines. Et juste après le passage que vous citez, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Huysmans faisait preuve d'un humour généreux qui donnait toujours au lecteur un coup d'avance. » C'est-à-dire, le lecteur anticipe le fait que tout soit à l'égal de la redoutable sole, etc. Et je crois que quand on parle de l'humour houellebecquien, il faut aussi voir ça, c'est-à-dire que il y a ce côté caustique, agressif, etc. Mais c'est aussi cet humour généreux qui donne au lecteur un coup d'avance et qui justement permet de créer cette relation très très forte entre auteur et lecteur.
Si je puis me permettre, c'est pas tout à fait l'auteur typique du feel good book
Justement, mais on se sent bien d'avoir le droit de se sentir mal. Compagnie de Houellebecq.
Oui, on jubile d'être moins seul et de souffrir avec les autres ou avec lui.
Oui, c'est
alors
ça.
Là, je vais vous lire.
C'est le partage parce que... de la souffrance.
La première phrase de son premier livre, c'est « Le monde est une souffrance déployée ».
Oui. Donc une phrase très schopenhauerienne.
Complètement
c'est vraiment du Schopenhauer, pur jus. Mais alors, justement là, J'ai voulu, pour aller dans le sens de ce que vous dites, Frédéric Becbédé, je vais vous lire quelques lignes d'un auteur, que je ne cite pas d'abord, qui concerne d'abord le style de Houellebecq. On dit qu'il n'a pas de style, ou que son style est plat. On a même parlé, je l'ai vu dans votre livre, Agathe Novak Le Chevalier, à son propos de clochardisation de l'écriture. Alors voici ce qu'écrit cet auteur. « Je ne comprends pas les gens qui trouvent que Michel Houellebecq n'a pas de style. Faut-il qu'il manque d'oreille ? Houellebecq a le style imperturbable, c'est bien différent. Le style Buster Keaton, deadpan, pince sans rire, tongue in cheek. En fait, c'est un des tons les plus difficiles à trouver et surtout à garder, à tenir sur la distance. Lui s'acquitte de cet exercice de haute voltige avec une virtuosité sans égale qui forcément se doit de rester discrète, comme tout le reste. Il y a là une contradiction dans les termes, cette maestria pataude qui fait toute l'attention de la phrase et de la page, page après page. Je suis en train de lire Sérotonine. Un autre avantage, c'est un effet comique permanent. On connaissait l'apocalypse en riant, voici la dépression planétaire à se tordre. Plus c'est triste, plus c'est drôle, plus c'est désespéré et désespérant, plus on s'amuse. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette analyse?
Tout à fait, tout à fait. Je suis en train de chercher qui a pu écrire ça.
Ah
c'est pas vous?
Non, c'est pas moi. C'est très bien. Et vous êtes d'accord aussi?
Je suis assez d'accord.
Mais
il y a un je suis d'accord sur tout le début. Je suis moins d'accord sur plus c'est désespéré, plus on s'amuse. Je crois que, enfin, moi, je suis sensible au désespoir profond qu'il y a dans les romans de Houellebecq, et notamment dans Sérotonine. Mais bon, sur tout le début, sur le style, je suis absolument d'accord aussi. Oui.
Alors, l'auteur de ce texte, c'est Renaud Camus. C'est Renaud Camus dans son journal. Je le dis parce que vous lui réglez au passage son compte. Vous parlez de son fonds de commerce politique et évidemment, on peut juger désolante et peut-être même scandaleuse ses prises de position récentes. Mais c'est un auteur, c'est un écrivain qui n'est pas réductible à son engagement et notamment le journal en témoigne. Voilà. Mais je trouvais que c'était très intéressant de lire ce passage parce que effectivement, il est quand même, il dit quelque chose du plaisir étrange qu'on prend à lire Houellebecq.
Alors, il parle pas tellement de forme. C'est très bien ce qu'il dit, mais ça parle pas de forme. Je veux dire que quand on dit que Houellebecq n'a pas de style, c'est complètement stupide puisque on reconnaît un morceau de Houellebecq, n'importe lequel, au bout d'un paragraphe. Il y a cette espèce de laconisme, de jeu, de ponctuation. C'était beaucoup de points virgules auparavant. Maintenant, c'est plus de virgules. Les phrases se sont allongées dans le dernier roman. Mais il y a une manière d'utiliser l'écriture vraiment qui est reconnaissable entre toutes. Et c'est ça un style. Un style, c'est quand on est capable de pasticher, quand on est capable de...
D'ailleurs, vous devriez le pasticher parce que dans votre livre La frivolité est une affaire sérieuse, vous faites un pastiche merveilleux de Modiano réagissant à l'affaire Weinstein. Et donc, on imagine un pastiche possible qui serait amical et même affectueux. On sait les liens d'amitié et d'admiration qui vous unissent à Houellebecq, Frédéric Becbédé, mais
pourquoi pas. C'est vrai qu'il y a j'ai des phrases de lui qui quelquefois lui-même se s'auto-pastiche, je puis dire. Je pense à un vers d'un poème qui dit il faudrait que je meure ou que j'aille à la plage, ou payer à la sortie, ou bien par carte bleue. Qui sont des alexandrins. C'est une phrase célèbre des Particules élémentaires qui est « L'éternité de l'enfance est une éternité brève, mais il ne le sait pas encore. » Point virgule, le paysage défile. On a là vraiment un style qui est très reconnaissable, avec, comme vous le disiez, le choc entre des considérations sur l'univers et des observations précises de la réalité. C'est le choc entre ces deux choses-là, et généralement un point virgule entre les deux.
Alors, il y a aussi cette phrase, dans la vie, tout peut arriver, et surtout rien. Mais d'un autre côté, ce dont on peut être reconnaissant à Houellebecq, c'est de son réalisme, je crois. Il est un peu comme l'artiste de La carte et le territoire, Jeanne Martine, son œuvre vise à rendre compte du monde. Et comme la sociologie a failli à sa mission, enfin, à part quelques glorieuses exceptions, en devenant critique, disons, gâteuse de la domination, on a le sentiment, notamment avec Houellebecq, que le réel revient en héritage à la littérature, aujourd'hui. Et il a des considérations extrêmement drôles, alors pour le coup, et méchantes, sur ce qu'on appelait dans les années 80, où sévissait le démon de la théorie, pour parler comme Antoine Compagnon, des considérations très, très, très dures sur l'écriture,
oui.
Hein, et sur Blanchot.
Mm-hmm. Oui.
Et sur l'écriture, il dit ceci que vous citez. Au cours d'une conversation littéraire, lorsque le mot d'écriture est prononcé, on sait que c'est le moment de se détendre un peu, de regarder autour de soi, de commander une nouvelle bière. Bon, voilà. C'est-à-dire, l'écriture, dans cette espèce de majesté intransitive, non.
Voilà.
Ça dit quelque chose.
Exactement.
Sur la réalité, et dit quelque chose de métaphysique, mais aussi de sociologique.
Oui.
Et dans Sérotonine, c'est le monde agricole qui est... envisager.
Ce qu'il faut dire, c'est ce que Houellebecq a apporté à la littérature contemporaine, c'est le retour au plaisir de lecture et au roman réaliste du 19e classique. Balzac, Zola...
Balzac,
voilà,
surtout, je crois.
Oui.
Il y a vraiment un lien entre Balzac qui arrive au début du 19e siècle en disant « Les contemporains pensent que le monde, après la Révolution, est devenu illisible. » Et moi, je dis que c'est le roman qui va redonner une forme de lisibilité au monde. Et Houellebecq, qui, en effet, vise ça aussi. Rendre compte du monde, c'est ça. C'est redonner une forme de lisibilité au monde contemporain qu'on ne comprend plus.
Mais avec le nouveau roman et avec tout ce que vous avez appelé la théorie, on s'était un peu perdu. On avait un peu perdu le bonheur, le plaisir de lire, de se marrer.
Alors, un bonheur douloureux, quand même, là, pour le coup. Parce que ce qui donne à voir est absolument terrible. Il y a ce personnage d'Emeric d'Harcourt, un aristocrate qui devient paysan. Donc, il investit, il habite une des propriétés de la famille et il veut devenir un paysan. Et sans se laisser entraîner dans la folie du productivisme, celle qui transforme les fermes en firmes. Et puis, il finit douloureusement. Enfin, il s'est suicidé lors d'une émeute. Et alors, c'est drôle, dans le monde daté d'aujourd'hui... il y a un très bel article de Béatrice Guret, Mort au champ, qui raconte ce que c'est que le suicide des agriculteurs. Et elle parle d'un paysan, d'un agriculteur, d'un éleveur, Jean-Marc Ferrière, qui, au moment de prendre sa retraite, se suicide. Il ne se tire pas une balle dans la tête, il se pend. Parce que la pendaison, c'est le suicide le plus fréquent chez les paysans. Pourquoi ? Il est harcelé par la banque et il culpabilise de vendre la ferme de ses parents et d'avoir emprunté de l'argent à la famille. C'est vraiment tout à fait le même univers où décrit par Houellebecq quand il dans Sérotonine, ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle. C'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. Disparition de l'agriculture, non pas au nom des intérêts, mais au nom d'une idée, il le dit, voilà. On se bat pour des idées, et tout d'un coup, quelles sont les idées auxquelles le personnage est confronté, lui qui travaille pour un organisme agricole, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour la liberté du commerce.
Ouais.
Donc la mondialisation tue l'agriculture, et on est très ému à lire ce passage, parce que on a parlé des gilets jaunes, oui, ça a un peu à voir, mais Maxime Nicole, alias Flyrider, n'est pas un paysan, Priscilla Dwozowski non plus, Éric Drouet qui fascine Jean-Luc Mélenchon non plus, ni même l'infortuné Jérôme Rodriguez. Donc ils sont plus invisibles que les invisibles, les paysans dont parle Houellebecq. Ils sont invisibles et son roman nous les fait voir.
Oui, Houellebecq continue. Enfin, c'est ce que Bernard Maris avait très bien montré dans son livre Houellebecq économiste, où il disait que Houellebecq était le seul romancier à avoir saisi l'essence du capitalisme qui repose sur l'incertitude et l'angoisse. Bah, on a les effets de ça dans Sérotonine. Et il y a vraiment, en effet, le drame de ces paysans qui, en plus, sont confrontés à une totale invisibilité.
Je pense qu'il faut parler du fait que Michel Houellebecq est ingénieur agronome.
Voilà. Oui.
Le personnage de cet agriculteur, Émeric, est un ami de l'époque où ils faisaient leurs études à l'agro. Et il se suicide pas seulement pour des raisons professionnelles. Il a aussi été quitté par sa femme. Et je pense que c'est... Alors là, pour le coup... un des passages les plus autobiographiques, sans doute, de toute l'œuvre de Houellebecq, c'est tous ses développements sur ses études, cette période étudiante à l'agro, où il a appris pas mal de choses, voilà, sur la géologie, l'agriculture. Et je pense que ça, c'est la première fois qu'il se sert de ce qu'il a.
C'est sa propre expérience.
Oui, oui.
Mais alors, il y a un passage particulièrement terrible, c'est la description d'un élevage industriel, plus de 300 000 poules exportées jusqu'au Canada. Et ça, c'est quasiment insoutenable. Ces poules déplumées, décharnées, leur épiderme irrité, infecté de peau rouge, elles vivaient au milieu des cadavres en décomposition de leurs congénères, passaient chaque seconde de leur brève existence, au maximum un an, à caqueter de terreur. Cela, c'était vrai, même dans les élevages mieux tenus, et c'était la première chose qui vous frappait, ce caquettement incessant, ce regard de panique permanent que les poules vous jetaient, ce regard de panique et d'incompréhension. Elles ne demandaient aucune pitié, elles en auraient été incapables, mais elles ne comprenaient pas. Elles ne comprenaient pas les conditions dans lesquelles elles étaient appelées à vivre. Et là, c'est une dimension qu'on oublie avec le cynisme apparent de Houellebecq, cette espèce de pornographie quelquefois difficile, enfin, avec des passages que je ne pourrais pas lire à l'antenne. Il y a la compassion joue un grand rôle dans son œuvre. Pour les poules, mais pas seulement. C'est une dimension essentielle, oui, de ce qu'on pourrait appeler la morale de Houellebecq.
Oui, ah oui. Bah de toute façon, pour Houellebecq comme pour Schopenhauer, la morale repose sur la dimension empathique. Et il y a vraiment cette dimension-là qui est fondamentale. Et les animaux qui apparaissent là foncièrement maltraités, sauf par Émeric justement qui essaye de s'en sortir, ces animaux sont aussi la métaphore de la condition humaine, de la manière dont nous sommes peu à peu traités nous aussi, et la manière justement dont la compassion disparaît. Je crois que c'est ça aussi l'avancée des romans de Houellebecq, la dynamique des romans de Houellebecq, c'est de faire ressurgir à la fin cette dimension foncièrement empathique.
Je pense qu'il est anticapitaliste.
Oui,
je crois qu'il faut le dire.
Antilibéral.
Alors, je suis incapable de savoir s'il est de gauche ou de droite, mais enfin, il est certain qu'il est illibéral.
Oui.
Il est illibéral, mais justement, comment dire, son humour aussi peut se nourrir de ce souci-là, de l'importance que du rôle que joue la compassion pour lui, parce que qu'est-ce qu'il reproche à la psychanalyse, justement ? C'est de faire disparaître la compassion,
oui, tout à fait,
chez le patient. Et il y a cette phrase, quand même, que je ne peux pas résister à vous lire. « Impitoyable école d'égoïsme, la psychanalyse s'attaque avec le plus grand cynisme à de braves filles un peu paumées pour les transformer en d'ignobles pétasses d'un égocentrisme délirant qui ne peuvent plus susciter qu'un légitime dégoût. » Alors, il est vrai que Lacan disait « Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans la perspective analytique, est d'avoir cédé sur son désir. » Donc, on vous apprend à ne jamais céder sur votre désir, et Houellebecq traduit « impitoyable école d'égoïsme ». Mais tout ça, au nom, effectivement, de la compassion dont il a peur que le monde moderne la fasse disparaître.
Ouais, oui. Et la seule manière de sortir de ça, et ce que montre très bien Sérotonine, c'est l'amour. C'est l'amour est le don absolu qui, justement, fait abstraction du désir égoïste et individualiste, au bout du compte.
Alors, oui, alors parlons un peu de cet aspect-là de Sérotonine, qui est aussi un roman d'amour, puisque le héros récapitule toutes ses histoires. Certaines peuvent apparaître un peu sordides. Il y en a deux qui se dégagent. La première avec une Danoise, je crois, Kate, d'une intelligence supérieure. Et il l'a gâchée pour des raisons qu'il ne s'explique pas. Et la deuxième, la vraie histoire d'amour, c'est Camille. Alors voilà. Décrivez-nous le rapport de
tous les romans de
Florent Claude.
Tous les romans de Houellebecq sont des romans d'amour. Hein. Il y a toujours des personnages de femmes que le héros aime ou a perdu ou d'amour impossible,
là,
chagrin.
C'est un amour réciproque qui dure. Et donc le personnage dit ceci. J'ai connu le bonheur. Je sais ce que c'est. Donc il y a pas d'amour. Il y a pas que l'amour. Il y a le bonheur dans l'amour. C'est un peu la première fois.
Mais il passe à côté. Il passe à côté par faiblesse, par impossibilité de trouver la formule qui va permettre de parce qu'il trompe cette femme dont il est extrêmement amoureux et il n'arrive pas à faire en sorte qu'elle lui revienne au bout du compte. Mais il y a quelque chose qui est très frappant, je trouve, dans Sérotonine, c'est la référence à Lamartine qui est centrale. Et notamment la référence à Gradiella, qui est le grand roman de Lamartine vieillissant et se souvenant à la fin de sa vie de l'amour qu'il a éprouvé tout jeune adolescent pour une fille de pêcheur en Italie. Il était amoureux d'elle, sa famille aristocratique lui a intimé l'ordre de revenir. Il est revenu en lui disant qu'il viendrait la chercher et évidemment il n'est jamais revenu. Et la fin de Gradiella, c'est un magnifique poème qui s'appelle « Le premier regret ». Et Houellebecq en cite des vers dans Sérotonine. Je crois que c'est vraiment une référence centrale sur l'amour et sur l'idée que quand on passe à côté d'une possibilité de bonheur dans la vie, il ne faut pas la laisser passer parce qu'après c'est terminé. Il n'y a qu'une chance, une seule chance.
Alors, c'est vrai, il la trompe. Enfin, il s'aime et puis il couche avec une autre femme.
Il accuse la société un peu. Il accuse. C'est pas vraiment sa faute. Il dit, en gros, c'est parce que le monde est comme ça, parce que le monde est un monde de désir, d'égoïsme, d'individu roi. Du coup, j'ai commis cet acte hédoniste un peu.
Voilà, cet acte hédoniste. Et il sort de l'hôtel. Il croise Camille, et qu'il a connue très jeune et qui s'est engagée tout entière. Dans cet amour,
c'est un magnifique personnage.
Elle est stupéfaite, il la revoit chez lui, ses larmes coulent, elle ne cesse de pleurer, elle s'en va. Et curieusement quand même, il la laisse partir. Et puis, quand des années se sont passées, il revient sur les lieux où elle habite, il s'aperçoit qu'elle vit avec son fils... Il est traversé par l'idée vraiment très difficile à supporter pour le lecteur de tuer son enfant, puisqu'il se dit c'est un amour fusionnel. Cet amour fusionnel, elle ne le supportera pas de le partager. Donc il vise l'enfant. Heureusement, il ne le tue pas. Mais là, on est quand même amené à se demander, nous parle-t-il d'un monde désespérant ou d'un personnage empêché et singulièrement empêché. On s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a trompé cette femme une fois. Il pourrait la regagner par des moyens plus ordinaires, non?
C'est le roman d'un désastre individuel inscrit dans un désastre collectif. C'est ce que vous disiez sur la correspondance à chaque fois entre l'individuel et le global. Mais de fait, il dit, au moment où il renonce à tuer l'enfant de Camille, il envisage d'aller se présenter à l'enfant. Chose qu'on pourrait en effet envisager. Et il dit « Je ne l'ai pas fait parce que je suis revenu à la raison, à une raison normale. » Comme si la raison voulait que, justement, on reste impuissant face aux choses. Vous disiez, Frédéric, que c'était un roman sur l'impuissance, mais c'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut quelque chose au mouvement du monde et est-ce qu'on peut quelque chose à la conduite de sa vie? La réponse, manifestement, est non.
Vous parliez des poules dans leurs usines, là. Mais c'est une métaphore de ce qu'est l'homme aujourd'hui. Hein. C'est vraiment ça, dépassé, ne comprenant pas ce qui lui arrive. Et incapable d'être heureux et brisé, broyé par une machine plus grande que lui. J'ai l'impression que c'est quand même le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est l'impossibilité d'aimer dans ce monde. Pourquoi tout est organisé pour détruire l'amour, quoi.
Oui, vous avez raison. Et en même temps, on est quand même obligé de se dire que le personnage, il met du sien. Oui, c'est-à-dire que vraiment, le bonheur est là, il pourrait la reconquérir. Quoi. On est quand même à se dire, quels que soient les rapports fraternels qui nous unissent à Houellebecq, à sa place, j'aurais fait autrement.
Oui, oui.
Hein, quand même.
Mais il dit qu'il n'arrive pas à trouver la formule, il n'arrive pas à trouver les mots. Et Houellebecq, lui, écrit. Enfin, il y a une manière de d'écrire pour restituer une sorte de relation humaine qui fait défaut manifestement dans le monde.
Alors, d'un autre côté, Houellebecq nous fait cadeau aussi d'un autre personnage sur lequel je voudrais dire un petit mot, c'est le docteur Azot.
Ça, c'est extraordinaire.
Alors, on aimerait le rencontrer. Il voit un psychanalyste, ça lui plaît pas du tout, et il va se généraliser. Il faudrait qu'il nous donne l'adresse. Hein. Le docteur Azot,
qui a des numéros de téléphone d'escorte.
Voilà,
c'est lui, d'accord.
Voilà, parce qu'il lui dit, vous arrivez à la période des fêtes, là ça va être dur, parce que le 25, quelquefois on le passe, mais le 31, ça passe pas, et moi je veux vous garder vivant, c'est très important. Le 31, les mecs se flinguent, etc. Alors, le héros lui dit qu'il voulait aller dans un monastère, et Azot lui dit, c'est pas mal comme idée, c'est pas con. Mais j'ai d'autres clients
c'était
qui font ça.
C'était dans Soumission, ça,
déjà.
La tentation du monastère.
Ouais. Mais les monastères sont surbookés.
C'est déjà dans Soumission. Oui, mais il lui dit, à mon avis, vous y prenez un peu tard. Sinon, il y a aussi les putes en Thaïlande. La signification de Noël en Asie, c'est un truc que vous oubliez complètement. Et le 31, vous pouvez faire glisser en souplesse. Les filles sont là pour ça. Vous devriez pouvoir trouver un billet. C'est moins booké que les monastères.
Et là, c'est plateforme. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que toute l'œuvre de Michel Houellebecq, au fond, c'est quelle est la solution. Alors de temps en temps, c'est effectivement le tourisme sexuel. De temps en temps, le monastère. Là, c'est des comprimés blancs et sécables qui, d'antidépresseurs qui vous aident à traverser. Mais tous les romans de Houellebecq se terminent soit par un meurtre, soit par un suicide, soit par un attentat. Donc, c'est pas spécialement optimiste.
Hein. Non, c'est pas spécialement optimiste.
Et là, il y a un point commun avec Soumission, qui est que cette envie de croire ou d'avoir la foi.
Voilà. Alors, nous allons nous y arrêter un peu. Vous nous apprenez, Agathe Novak-Lechevalier, qu'Houellebecq, peu après la publication de la carte et le territoire, a déclaré que la fin du docteur Faustus de Thomas Mann avait eu dans la rédaction de son propre livre une influence décisive. Alors, docteur Faustus, vous le résumez, c'est Sérénus Zeitblom qui raconte la vie du compositeur Adrien Leverkun, une sorte de Faust. Et il décrit sa dernière œuvre, un chef-d'œuvre mort au nid et proscrit, une contrepartie de l'hymne à la joie, qui est une négativité de la religion, mais qui est une œuvre religieuse, dit-il, puisqu'elle traite de la chute, de la damnation. Et il la décrit très précisément, cette œuvre, pour dire « Écoutez le dénouement, écoutez-le avec moi. » Et vous engagez le lecteur à faire de même. Donc aidez-moi à bien écouter le dénouement de Sérotonine. Juste avant la fin prévisible, voilà ces derniers mots que je vais vous lire et que vous allez commenter. Dieu s'occupe de nous en réalité. Il pense à nous à chaque instant et il nous donne des directives parfois très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases inexplicables, si l'on considère notre nature biologique, notre statut de simple primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment, en supplément, que je donne ma vie pour ces minables? Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. Alors, dites-moi.
Ben je pense que, enfin, c'est exactement ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les romans houellebecquiens se terminent terriblement mal. On arrive toujours à la catastrophe. Mais en même temps, que ça se termine mal. Quelque chose se produit toujours à la fin des romans houellebecquiens qui est de l'ordre d'un passage à une parole poétique. Une attention au rythme, à la musicalité et surtout une manière de faire résonner ce qui est devenu indicible dans le monde tel que le décrit Houellebecq, c'est-à-dire le rapport à une morale, le rapport à la beauté, le rapport à l'amour, le rapport à une forme de justement de sentiment humain et aussi à une transcendance. En général, dans le roman houellebecquien, ça ne se dit pas. Ça se fait entendre de manière extrêmement extrêmement subtile. Là, justement, Houellebecq dit, est-ce qu'il faut être à ce point explicite? Il semblerait que oui. C'est une des premières fois que ça dépasse le stade de l'implicite et qu'il le dit très clairement. La seule solution, ce qu'il faut faire entendre dans le monde contemporain, c'est l'importance de l'amour. Et puis, il y a aussi le lien avec la transcendance derrière. Je crois que Sérotonine engage quelque chose de nouveau par rapport à ça, mais qu'en même temps, il y a fondamentalement c'était déjà présent dans les romans avant, avec ce passage à un régime poétique qui permet de faire voir le monde autrement et faire entendre l'indicible. Je pense que c'est fondamental chez lui.
Hier, à l'enterrement de Michel Legrand, à un moment, j'ai dit « Moi, je suis agnostique, mais je dois reconnaître que Dieu se donne un mal fou pour nous faire croire qu'il existe. » Et la fin de Sérotonine, pour moi, est absolument sublime. J'ai l'impression que... la sérotonine est la preuve de l'existence de Dieu.
Ah.
Et que nous avons donc en nous cette hormone, nous avons une hormone en nous, de l'amour, une hormone du bonheur, certains comprimés peuvent développer cette hormone, mais elle existe, elle est en nous. Et ce que dit Houellebecq, c'est que voilà, ça prouve qu'on n'est pas que des animaux, que des mammifères, que des particules élémentaires, on est un peu plus que ça. J'ai l'impression qu'il se dévoile dans cette fin. Et là, peut-être pas Houellebecq, en tout cas le personnage, on ne sait pas en vérité s'il va se suicider ou non. Et c'est l'histoire d'un type qui veut disparaître, hein, quand même. Florent
dont
Claude
Azote dit. Oui. C'est son diagnostic, ça fait extraordinaire, qu'il est en train de mourir de chagrin.
Ouais. Il lui répond, est-ce que ça a du sens, mourir de chagrin?
Oui, il lui dit d'ailleurs qu'il va, pour des raisons hormonales, ne cesser de grossir. Ouais. Donc c'est sur cette image-là,
Mais et en même temps, c'est un personnage qui organise sa propre disparition, un peu à la façon d'un Xavier Dupont de Ligonnès, qui va rendre visite à ses ex pour leur dire au revoir. Il tue personne, mais on sent qu'il veut, voilà, il part dans un hôtel pour devenir injoignable, il quitte son travail, etc. Donc aujourd'hui, c'est une question que tout le monde, un peu une tentation pour tout le monde, de cette idée de disparaître dans la nature.
Oui. De disparaître. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, dans les lignes qui précèdent, il dit ceci avons-nous cédé à des désillusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infini des possibles? Cela se peut. Ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous ne les avons pas formalisées. Nous n'en avions pas le goût, nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elle, et puis très longuement d'en souffrir. Donc, on a l'impression que dans le paragraphe qui suit, qui est le paragraphe final, il indique comme la voie du salut, le salut par l'amour, en quelque sorte, le salut par le don. Et c'est le salut par le Christ, mais est-ce que ça va jusqu'à la preuve de l'existence de Dieu, jusqu'à une transcendance? Est-ce que ça va jusque-là?
Jamais, jamais. Tout l'intérêt des excipites, enfin de ces fins houellebecquiennes, c'est justement de nous laisser en suspens. Ça n'est jamais... Houellebecq ne tranche jamais les questions à la fin de ses romans. C'est toujours le travail d'un suspens qui est réversible et qu'on peut du coup entendre comme on choisit de l'entendre. Là, pour le coup, il est explicite, mais cette question-là que vous pointez reste encore une fois indécidable.
Et moi, mon titre préféré de tous les livres de de Michel Houellebecq, c'est plateforme. Parce que plateforme, ça dit programme politique, et en même temps, c'est une image de son enfance ou de l'enfance du personnage qui monte en haut d'un pylône, qui comme ça, avec une sorte d'échelle métallique, il se retrouve en haut d'un pylône et il n'arrive plus à redescendre. Et au fond, c'est ça, cette idée que l'être humain aujourd'hui, il est en haut d'un objet qu'il a construit, il regarde le paysage, il a la trouille de redescendre, il sait pas comment faire pour ne pas sauter dans le vide. Il est un peu bloqué dans cet endroit sans savoir comment en sortir.
Mais en même temps, vous avez donné une très belle explication du titre, Frédéric Becbété. Donc, il dit sérotonine pour ne pas dire amour, en quelque sorte, pour ne pas dire don.
C'est le mystère. Houellebecq, c'est ça le mystère Houellebecq, c'est l'amour est-il quelque chose de biologique ou quelque chose de supérieur, quelque chose d'inexplicable.
Ah, c'est bien, on peut pas. Oui, vous voulez dire un mot ?
Dès qu'il est question de sérotonine dans le livre, on nous dit qu'on n'en maîtrise pas les effets. C'est un peu la littérature houellebecquienne.
Très bien.
Elle est efficace, mais on ne sait pas exactement ce que ça produit.
Voilà. On ne peut pas terminer mieux l'émission que sur cette indécidabilité. Merci beaucoup Frédéric Becbété, merci beaucoup Agathe Novak le Chevalier. Donc je rappelle le titre de votre livre, Agathe Novak le Chevalier, Houellebecq, l'art de la consolation. Il est publié aux éditions Stock. Frédéric Becbété, vous avez publié récemment La frivolité est une affaire sérieuse aux éditions de l'Observatoire, avec notamment ce pastiche délicieux et affectueux de Modiano. Et pour ceux qui l'ignorent encore, je rappelle que le livre de Michel Houellebecq, le roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, est publié aux éditions Flammarion. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr, où l'émission est téléchargeable un an et écoutable à vie.
Magnifique.
C'est métaphysique, ça. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Les combats de Bernanos. Mes invités sont Jacques Julliard et Sébastien Lapac. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Char et François Connac. À la technique aujourd'hui, Élise Le.